Radio France Internationale, il est 6h à Paris, 5h en temps universel.
Nemo en piste.
RFI Matin, c'est parti. Nous sommes ensemble pour 3h. Tout de suite, le journal avec vous, Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de votre édition, la vie qui reprend doucement à Bukavu dans l'est de la RDC.
Depuis dimanche, la capitale provinciale du Sud Kivu est sous le contrôle du M23 et des troupes rwandaises. Nous le verrons, les habitants de Bukavu ressortent à présent de chez eux, notamment pour trouver de quoi se nourrir. Européens et Américains dans leurs couloirs respectifs sur le dossier ukrainien. La paix en Ukraine, justement, il en sera question à Riyad entre les chefs de la diplomatie russe et américaine. De quoi faire grincer les dents, nous le verrons, de Kiev exclu des discussions, mais aussi des dirigeants européens réunis hier à Paris. 40 000 personnes affectées et des pertes évaluées à plus de 4 milliards de dollars. Le président argentin empêtré dans un scandale. Il est accusé d'avoir encouragé l'achat d'une crypto-monnaie censée aider le développement des petites entreprises. Et puis, la Corée du Nord qui s'ouvre un peu plus. Nous entendrons le témoignage du premier occidental à avoir franchi la frontière nord-coréenne depuis 5 ans.
Après un week-end qui a acté la prise de Bukavu par le M23, l'activité reprend dans la ville de l'Est congolais.
La peur règne encore dans la capitale provinciale du Sud Kivu, mais la situation était relativement calme hier. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de réel combat comme il y a un mois lors de la prise de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. À Bukavu, à présent, les habitants commencent à sortir pour trouver de quoi se nourrir. Weli Diallo.
Après avoir passé 2 jours sans mettre les pieds dehors, Zena est sortie pour vendre les derniers poissons qu'elle entreposait chez elle.
Je suis là à cause de la faim chez moi. Mes enfants me demandent à manger car depuis vendredi, nous étions enfermés à la maison. Je ne leur donnais que de la bouillie. J'ai estimé que je pouvais recommencer la vente. J'ai encore peur, mais c'est Dieu qui va nous aider.
Sur différentes places de la ville, les habitants sont venus constater les dégâts liés aux tirs et aux pillages des magasins et marchés. Hortense a passé 2 jours à entendre les balles siffler autour du camp Saïo.
Je vois que nous pouvons déjà commencer à vivre, mais avec précaution. Il n'y a aucun mouvement qui peut nous rassurer que l'on peut déjà marcher avec certitude. Moi, souvent, je vois des véhicules des militaires passer. J'entends qu'ils tiennent un meeting. Peut-être que je serai rassurée.
Didas observe et regarde les quelques motos et taxis qui circulent. Les ambulances qui acheminent les blessés vers les hôpitaux attirent son attention.
On a passé des moments très très difficiles. Les armes qui circulent parmi les civils, c'est un grand danger.
Le CICR alerté hier sur les nombreux blessés de guerre par balles et explosifs arrivés dans les centres de soins. L'organisation espère aussi pouvoir identifier les morts et leur donner une sépulture décente.
Et après la chute de Bukavu dimanche à une quarantaine de kilomètres plus au sud, plusieurs centaines de Congolais ont fui hier le territoire de Kamanyola pour rejoindre le Rwanda. Des réfugiés qui affluent aussi au Burundi voisin. Ces 3 derniers jours, près de 10 000 personnes ont gagné le pays après avoir fui donc l'est de la République démocratique du Congo.
Simon, les Européens en quête d'unité alors que le dialogue américano-russe se poursuit sur l'Ukraine.
Les 27 pour leur spectateur de négociations menées par Washington pour mettre fin à 3 ans de guerre en Ukraine. Hier, une dizaine de dirigeants européens se retrouvaient à Paris pour une réunion informelle sur le dossier. Alors, pas de déclaration commune et des divisions, notamment sur l'envoi des militaires pour assurer la paix en cas de trêve. S'il en est, le message d'unité est pour le moins fragile et dans le même temps, Américains et Russes se retrouvent eux aujourd'hui en Arabie Saoudite. Une fois encore, les Ukrainiens ne sont pas conviés aux discussions. La correspondance à Kiev d'Emmanuel Manuel Chaz.
Pas de discussion à propos de l'Ukraine sans l'Ukraine, ce qui avait été le mot d'ordre des alliés de Kiev a volé en éclats depuis la semaine dernière et les annonces successives de Donald Trump et de son administration sur un dialogue bilatéral Washington-Moscou que les Européens et les Ukrainiens n'ont pu que constater. À Kiev, passé la stupeur de ces annonces et l'abattement pour certains, les Ukrainiens et en premier lieu le gouvernement veulent croire en un sursaut européen et à des garanties de sécurité apportées par Bruxelles. Volodymyr Zelensky avait déjà suggéré des contingents étrangers sur le sol ukrainien en nombre suffisant pour dissuader les forces russes de réattaquer en cas de cessez-le-feu décidé entre les deux parties. Sauf que ni le cessez-le-feu ni la présence de troupes étrangères en Ukraine ne sont encore des réalités. À ce stade, le président ukrainien affirme que son pays n'acceptera aucune décision prise bilatéralement par les États-Unis et la Russie, sans l'Europe et sans Kiev, et suggère qu'un envoyé spécial européen devrait être nommé afin de représenter le continent dans tout pour parler au sujet de l'Ukraine. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Radio France Internationale, 7h passée de 5 minutes à Beyrouth, au Liban, où les forces israéliennes refusent de se retirer.
Le délai fixé pour le retrait des emprises israéliennes du sud du Liban expire pourtant ce matin, mais dès hier soir, à quelques heures de l'échéance, donc déjà repoussé une fois, l'armée israélienne a annoncé maintenir sa présence dans 5 points stratégiques au Liban. Pas du tout du goût des autorités libanaises qui réclament un retrait total, et ce en vertu de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Oriane Verdier.
Le porte-parole de l'armée israélienne affirme que les forces libanaises ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité dans le sud du Liban et surtout d'éviter une résurgence du Hezbollah à la frontière. Un petit nombre de soldats israéliens déployés sur 5 points stratégiques du côté libanais de cette frontière resteront donc en poste dans le but de protéger la population israélienne de la menace du Hezbollah, a annoncé hier le porte-parole de l'armée israélienne. Il affirme que cette décision a été prise en accord avec le comité en charge de faire appliquer le cessez-le-feu. Le comité est dirigé par les États-Unis, nous sommes en échange constant avec eux, développe-t-il. De son côté, le président libanais a appelé hier les pays garants de la trêve de sommer Israël de retirer toutes ses troupes et de libérer les prisonniers, comme le prévoyait l'accord. L'armée israélienne mène quotidiennement des opérations de dynamitage de bâtiments à la frontière et des frappes à travers tout le pays. Selon l'ONG Human Rights Watch, la démolition délibérée par Israël de maisons et d'infrastructures civiles rend impossible le retour pour de nombreux habitants dans les zones frontalières.
Un premier contingent de migrants expulsés par les États-Unis doit arriver demain au Costa Rica. Des hommes et des femmes originaires de diverses nationalités, pour la plupart issus d'Asie centrale ou d'Inde, ils seront ensuite renvoyés dans leur pays. Le Costa Rica s'aligne ainsi sur la proposition et la position du Panama et du Guatemala voisins, et ce pour épauler Donald Trump, qui avait promis pendant sa campagne de lancer le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine.
En Argentine, une affaire qui pourrait fragiliser le président.
Javier Milei, accusé d'avoir fait la promotion d'une crypto-monnaie dont le cours s'est brièvement envolé avant de s'effondrer. Une crypto-arnaque dont le président argentin aurait été la victime ou bien l'acteur, en tout cas l'un des protagonistes. Si Javier Milei nie et plaide la bonne foi, 40 000 personnes ont été affectées avec des pertes de plus de 4 milliards de dollars. Daniel Valo.
C'est une avalanche de plaintes qui s'abat sur le président argentin. Des plaintes centralisées par une juge fédérale qui devra déterminer le rôle exact de Javier Milei dans cette affaire qui s'apparente à une vaste escroquerie à la crypto-monnaie. Tout a commencé ce vendredi par un message sur les réseaux sociaux du président argentin. Celui-ci fait la promotion de Libra, une crypto-monnaie dont le cours va soudainement s'envoler avant de brutalement s'effondrer. Selon des spécialistes de la cyber-économie, il pourrait s'agir d'une véritable arnaque ayant permis à une poignée d'individus d'empocher en quelques heures plusieurs millions de dollars. Javier Milei a beau rappeler qu'il a effacé son message dès qu'il s'est rendu compte de la supercherie, le mal est fait pour le président argentin qui va non seulement affronter les plaintes déposées contre lui devant les tribunaux, mais aussi les assauts de l'opposition, avec une commission d'enquête et une procédure de destitution lancée par le parti péroniste de Cristina Kirchner, l'ancienne présidente argentine qui a qualifié Javier Milei de crypto-arnaqueur ayant agi comme l'hameçon d'une arnaque numérique. Fin de citation.
Daniel Valo. L'état de santé du pape, une nouvelle fois source de préoccupation. Si dans un dernier communiqué publié hier, le Vatican assure que l'état de François est stable, le pontife argentin âgé de 88 ans est hospitalisé depuis vendredi dernier et pour plusieurs jours peut-être encore, même si aucune date de sortie n'est avancée. Les dernières analyses faisaient état d'un cas complexe d'infection des voies respiratoires. Les geôliers du groupe État islamique en Syrie devant la justice française, ouverture hier à Paris du procès de 5 djihadistes. 3 d'entre eux comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris. Parmi eux, Mehdi Nemouche, déjà condamné en Belgique à la perpétuité, cette fois dans le cadre du procès de l'attentat du musée juif de Bruxelles. À Paris, il est accusé d'avoir séquestré et torturé 4 journalistes français retenus en Syrie entre 2013 et 2014. Mehdi Nemouche a assuré ne jamais avoir été geôlier d'otages occidentaux ni d'aucun autre.
De quoi faire pâlir ses voisins voisin européen, l'Espagne, voit encore sa dette reculer.
Alors que la France et l'Allemagne s'enfoncent dans la crise, l'économie espagnole, elle, se porte au mieux. D'après les derniers chiffres de la Banque d'Espagne, la croissance du pays a été meilleure que prévu. La dette publique espagnole, l'une des plus élevées d'Europe, continue de refluer. Nathanaël Vitran, le contraste avec la France est saisissant.
Alors que les finances publiques françaises ne cessent de se dégrader, l'Espagne, elle, poursuit tranquillement son désendettement. Madrid n'avait pourtant pas été moins généreux que Paris pendant la pandémie et les mesures de soutien aux entreprises et aux particuliers avaient plombé les finances du pays. À son pic, en mars 2021, la dette publique espagnole s'élevait à plus de 124% du PIB. Mais 4 ans plus tard, elle a fondu à peine au-dessus de 100% de la production intérieure brute. Un résultat qui dépasse même les attentes du gouvernement de gauche au pouvoir. Mieux encore, ce redressement des finances publiques n'est pas dû à une brutale cure d'austérité, mais à la bonne santé et au dynamisme de l'économie espagnole. Porté notamment par un secteur du tourisme en pleine forme, la croissance a dépassé 3% en 2024, soit 4 fois et demi la moyenne de la zone euro. De quoi gonfler les recettes fiscales, un petit miracle, d'autant que faute de majorité claire et incapable de faire adopter son budget, le gouvernement espagnol se contente de gérer les affaires courantes. Une source d'espoir peut-être de ce côté des Pyrénées.
Nathanaël Vitran.
Et puis Simon, la Corée du Nord ouvre ses portes aux touristes occidentaux.
Les agences de voyage reprennent du service. Le pays, premier à se barricader à double tour durant la pandémie de Covid-19, est aussi le dernier à nouveau ouvrir ses portes. Nicolas Roca a pu contacter le premier occidental à avoir franchi la frontière nord-coréenne depuis 5 ans.
Quelques heures seulement après sa sortie de Corée du Nord, Rowan Beard, cofondateur de Young Pioneer Tours, a décroché son téléphone pour répondre aux questions de RFI.
J'étais le tout premier occidental à recevoir le tampon d'entrée en Corée du Nord en 5 ans, et ça je vais m'en rappeler pendant longtemps.
Une grande première et presque un voyage dans le temps, celui de la pandémie.
Le Covid est encore dans leur esprit, on vérifie encore votre température à l'entrée du pays, on vous demande si vous vous sentez bien. Ils prennent toutes les précautions pour être certain que cela ne pose aucun problème à leur système de santé.
Avec une poignée d'occidentaux, il a pu passer 5 jours à Rasson, seule zone accessible et conçue spécifiquement pour accueillir les touristes étrangers.
Les Coréens étaient particulièrement contents de voir des non-russes entrer dans leur pays, échanger à nouveau. Tout le monde attend à ce que la capitale Pyongyang ouvre à nouveau aux visites autour du mois d'avril.
Visite d'une brasserie, d'une école de traduction, spectacle à la gloire des leaders nord-coréens. Dès jeudi, une dizaine de touristes, majoritairement des Australiens et des Français, entreront en Corée du Nord. 3 jours sur place pour 645 euros. Le retour aux affaires pour l'agence de voyage est le début d'une très mince ouverture pour le régime.
Enfin Nemo, les jeux sont faits. Ils étaient 10 finalistes qu'on vous a présentés à tour de rôle ces dernières semaines. Eh bien, dans 2h30, maintenant, vous connaîtrez le nom du prix découverte RFI 2025. On vous retrouve donc Nemo à 7h45 pour dévoiler le nom du grand gagnant.
Et le suspense est à son comble. Merci Simon et à tout à l'heure. 6h13 ici à Paris. RFI Matin, c'est bel et bien parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, heure de Paris. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo, toujours à la une ce mardi. Après la prise de Bukavu par le M23 soutenu par le Rwanda, après Goma, capitale du Nord Kivu, c'est donc celle du Sud Kivu qui est aux mains du groupe armé. Le climat semble plutôt calme sur place où les habitants commencent à retrouver leurs rues, mais toujours avec prudence. On y revient tout au long de la matinée. L'invité de la rédaction Afrique ce mardi, le ministre ivoirien de la Défense, Téné Biraïma Ouattara, à 2 jours maintenant d'une cérémonie pour acter la rétrocession par la France de la base occupée par le 43e bataillon d'infanterie de marine. Il répondra aux questions de Binta Diagne depuis Abidjan. Autre invitée, elle a été ancienne ministre des Affaires européennes en France. Elle est désormais présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, écrivain incarcéré en Algérie depuis 3 mois. Une soirée de soutien est organisée ce soir à l'Institut du Monde Arabe. Noël Lenoir sera au micro d'Edouard Dupénoit aux alentours de 6h20, temps universel. Paris, où avait lieu hier une réunion organisée par Emmanuel Macron en présence de plusieurs dirigeants européens, mais aussi de l'OTAN pour réfléchir à l'avenir de la défense du vieux continent et de l'Ukraine. À l'heure où des négociations se profilent à Riyad, en Arabie Saoudite, entre Américains et Russes pour tenter de relancer une relation au plus bas depuis l'invasion de Moscou chez son voisin il y a bientôt 3 ans maintenant. À suivre également les revues de presse internationales et africaines de Frédéric Couteau. Aujourd'hui l'économie avec Stéphane Genest et Antoine Grenier pour l'actualité sportive. Et puis, vous l'entendiez, c'est le grand jour, ce mardi 18 février. Vous connaîtrez le nom du lauréat ou de la lauréate du prix Découverte RFI 2025. Qui donc pour succéder à la rappeuse congolaise JCB, grande gagnante en 2024? Rendez-vous à 8h45, heure de Paris. RFI Matin, vous avez le programme. Bienvenue. Tout de suite, on rejoint le continent asiatique. Et plus précisément la Chine, où après des années de débats et d'examens techniques, les autorités ont donné leur autorisation pour une installation dédiée à la recherche en eau profonde qui pourrait redéfinir l'exploration marine, amplifiant dans le même temps l'influence géopolitique de Pékin dans l'une des régions les plus riches en ressources du monde. Les scientifiques sélectionnés pourront y travailler jusqu'à un mois. En ligne de la capitale chinoise, Cléa Broadhurst. Bonjour Cléa.
Bonjour Némon, bonjour à tous.
Quel est le but d'une telle installation qui, je le précise, sera ancrée à 2000 mètres de profondeur?
Eh bien, avec cette base, la Chine pourrait bien s'imposer comme un leader mondial de la recherche océanographique, rivalisant, voire surpassant les capacités occidentales dans ce domaine. Alors, cette station permettra d'étudier sur le long terme les hydrates de méthane, mieux connus sous le nom de glace inflammable. C'est une ressource qui pourrait jouer un rôle clé dans les énergies du futur. Alors, comprendre comment ces hydrates se forment et se décomposent est essentiel, notamment pour mesurer leur impact sur le climat, car le méthane, on le sait, est un puissant gaz à effet de serre. Et la mer de Chine méridionale en contiendrait jusqu'à 70 milliards de tonnes, soit la moitié des réserves prouvées de pétrole et de gaz de la Chine. Mais les enjeux vont bien au-delà de l'énergie. Cette station pourrait aussi mener à la découverte de nouvelles espèces marines, fournir des données précieuses sur le changement climatique et l'activité tectonique, et repousser les limites de l'intelligence artificielle et de la robotique sous-marine.
Une avancée scientifique majeure, on l'a compris Cléa, avancée qui s'inscrit également dans un contexte hautement stratégique.
Et oui, car les fonds marins de la région contiennent aussi des gisements très concentrés de cobalt, de nickel et de métaux des terres rares qui sont essentiels pour les technologies de pointe telles que les batteries de véhicules électriques et les semi-conducteurs. Mais on y trouve aussi plus de 600 espèces capables de survivre dans des conditions extrêmes, dont certaines possèdent des enzymes qui sont essentielles au traitement contre le cancer, par exemple. Donc si la Chine parvient à extraire ses ressources à grande échelle, elle pourrait acquérir un avantage décisif en matière de sécurité énergétique et de fabrication de haute technologie, ce qui pourrait réduire sa dépendance aux importations extérieures.
Il y a donc aussi, on le disait, un enjeu géopolitique.
Et oui, et la Chine ne cache pas ses ambitions en mer de Chine méridionale. Elle y affirme ses revendications territoriales de manière assez agressive, on le sait, malgré la contestation des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie, du Brunei et de Taïwan. Et donc une station permanente en haute mer ne fait que renforcer sa présence dans ces eaux disputées. Car dans les faits, cette station pourrait aussi servir à détecter les sous-marins, renforcer la surveillance des fonds des océans, déployer des drones sous-marins et même soutenir la logistique militaire chinoise dans cette région qui est stratégique. Et pourquoi? Parce que c'est un enjeu majeur, car la mer de Chine méridionale est l'une des routes commerciales les plus vitales au monde, par où transite 30% du commerce mondial. Donc, une présence chinoise renforcée pourrait modifier l'équilibre des forces et contrarier les opérations navales des États-Unis et de leurs alliés. Donc, ce projet marque une nouvelle étape dans la compétition pour le contrôle des océans, remettant en question la domination occidentale à la fois dans l'exploration des grands fonds et le partage des ressources maritimes stratégiques.
Les explications complètes de Cléa Broadhurst, envoyée spéciale permanente de RFI à Pékin, où il est 13h18. Merci Cléa.
RFI Matin.
Ce soir, l'Institut du Monde Arabe en plein cœur de Paris accueille une soirée de soutien à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, incarcéré depuis plus de 3 mois. Édouard Dupénoit, vous recevez tout à l'heure la présidente de son comité de soutien.
Oui, Noël Lenoir, juriste, haute fonctionnaire, ancienne ministre des Affaires européennes. Elle est au micro de RFI dans une heure. Avec elle, on revient effectivement sur la situation de l'écrivain arrêté au milieu du mois de novembre à l'aéroport d'Alger. Il est incarcéré depuis cette date. Ses soutiens affirment qu'il est là ou l'une des victimes collatérales de la très vive tension diplomatique entre la France et l'Algérie. Boualem Sansal, pratiquement octogénaire, son état de santé est fragile, il est sous le coup d'une procédure judiciaire qui peut lui valoir de facto la réclusion à perpétuité.
Le rendez-vous est pris, Edouard. Rendez-vous à 6h20, heure de Paris. À tout à l'heure. C'est une mesure dont on a beaucoup parlé ces derniers mois en France, les OQTF, ces obligations de quitter le territoire français. Mais être sous le coup d'une telle sanction, cela ne prive pas de tous les droits dans l'Hexagone, ce que semble avoir mal compris un maire d'extrême droite du sud-est du pays. Robert Ménard est donc convoqué par le procureur ce mardi pour avoir refusé de marier une Française et un Algérien en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF, c'était il y a un peu moins de 2 ans, un refus illégal. Depuis, Mustapha a été expulsé. Et pour RFI, Marie Casadebé a retrouvé Eva, la fiancée. Témoignage.
On n'imagine jamais que le jour qui est censé être le plus beau jour de sa vie va se passer comme ça.
C'est en regardant la télévision qu'Eva et son fiancé apprennent la nouvelle. Sur le plateau de la chaîne privée CNews, le maire de Béziers, Robert Ménard, annonce en direct qu'il ne les mariera pas. Nous sommes la veille de la cérémonie.
Vous allez le marier ?
Mais bien sûr que non. Ce type est en situation irrégulière. Mais si on veut le mettre dehors, mais écoutez, que la police des airs et des frontières, je leur donne rendez-vous vendredi à la mairie, ils le trouveront, puisqu'il vient à 11h se marier.
Quitte parce à vous mettre, vous, hors la loi.
Mais bien sûr, tant pis, quand le droit est à ce point contre la logique, le bon sens, l'évidence.
Moi, on est stupéfait, on dort pas de la nuit, je décide quand même d'aller voir Monsieur Ménard pour discuter avec lui, parce que je me dis qu'il peut déléguer un officier d'état civil, mais qu'il peut pas gâcher le jour J, l'amour de deux personnes pour des opinions politiques. Malheureusement, quand on se présente à l'heure du mariage, c'est là que le drame a commencé, entre guillemets.
Une nuée de caméras les attend sur le parvis de la mairie. L'élu a prévenu la presse. Le couple parvient malgré tout à atteindre l'entrée du bâtiment.
Et là, en fait, la sonnette d'alarme retentit. Les portes de la mairie nous sont fermées au nez à la demande de Monsieur Ménard pour exprimer son refus. On ne traite pas les gens comme ça.
Et 2 semaines plus tard, Mustapha est renvoyé en Algérie. Le mariage n'aurait jamais pu empêcher son expulsion. Mais pour Eva, les 2 événements sont forcément liés au vu de la médiatisation de l'affaire et de la mobilisation du maire.
Dans la semaine qui a précédé le mariage, j'ai saisi tout le monde. La police des airs et des frontières, le sous-préfet, le préfet, le ministre, le procureur en leur disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'appliquer l'OQTF que vous avez délivré ?»
L'avocate du couple a saisi la justice pour dénoncer une expulsion illégale. Elle soutient que son client n'a vu ni avocat ni juge avant d'être placé dans un avion. Le tribunal administratif se prononcera sur ce volet vendredi. En attendant ce mardi, c'est Robert Ménard qui se retrouve face à un procureur pour avoir refusé de marier Eva.
J'attends quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'on a subi, de ce qu'on a ressenti. On n'atteint pas la vie des gens comme ça. On remet pas en cause leur amour, on les dénigre pas comme ça. Et à la télé et partout, c'est pas rien ce qu'il a fait.
Depuis 20 mois, Eva multiplie les allers-retours en Algérie pour voir Mustapha, qui n'a pas souhaité s'exprimer. Sa compagne le dit tout aussi désemparée.
Et j'ajoute que Robert Ménard, donc le maire de Béziers, risque jusqu'à 5 ans de prison, mais aussi une amende de 75 000 euros et une peine d'inéligibilité. Un conseil des ministres de l'économie et des finances des pays de l'Union européenne aujourd'hui à Bruxelles. Et au cœur de cette réunion, la question d'un éventuel assouplissement de la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, avec l'accent, qui déchaîne véritablement les passions. Pourquoi fait-elle débat et quel est le risque de l'assouplir ? C'est notre question d'environnement. Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, Pauline, la CSRD, expliquez-nous ce que c'est concrètement.
Eh bien, la CSRD, c'est une directive européenne qui impose progressivement aux entreprises de fournir un rapport extra-financier sur leurs données sociales et environnementales. Alors, cela peut être ses impacts sur la biodiversité, sur le climat et inversement, les conséquences du réchauffement climatique sur son activité. Par rapport à un dispositif précédent, la CSRD concerne davantage d'entreprises et doit harmoniser les informations divulguées. Objectif, pouvoir les comparer, guider les investisseurs et aider les entreprises à piloter leur transition. Elle se concrétise cette année puisque les premiers rapports des plus grands groupes doivent être publiés à partir des données récoltées sur l'année 2024.
Mais nombre d'entreprises, Pauline, n'y vont pas de bon cœur.
Le MEDEF, ses homologues allemands de la BDI et italiens de la Confindustria réclament un assouplissement depuis novembre à la Commission européenne. Un vœu en voie d'être exaucé dans une loi dite Omnibus, dont la présentation est annoncée pour la semaine prochaine. La Commission souhaiterait modifier plusieurs directives votées lors du mandats précédents, dont celle sur le devoir de vigilance et la CSRD. Si le contenu de cette loi est encore flou, Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, a annoncé sur France Inter un choc de simplification massif. Alors Olivier Guérin, chargé de plaidoyer à Reclaim Finance, craint cette remise en cause.
Elle présente un risque sur l'instabilité réglementaire, c'est-à-dire que les acteurs financiers qui veulent faire des choix ont besoin de savoir sur le long terme ce qui va se passer. Le second risque, c'est vraiment sur le contenu de la loi. On est parti apparemment pour supprimer de nombreux points de reporting. Et donc les entreprises n'auront plus autant d'informations à fournir pour montrer qu'elles sont vraiment alignées avec l'accord de Paris.
Olivier Guérin estime que la directive peut entrer en vigueur dans les temps.
Mais alors que lui reprochent ces entreprises ?
Eh bien, certaines entreprises et certains dirigeants politiques l'accusent d'être trop complexe. Le directeur général de la BNP Paribas dénonce un délire bureaucratique et des patrons craignent que cela affecte la compétitivité. La porte-parole du gouvernement français évoque un enfer bureaucratique. Pour autant, toutes les entreprises, y compris des grands groupes, ne livrent pas bataille, certains se sont préparés. Et puis que le rapport de cette année ne soit pas parfait, eh bien ce n'est pas si grave, explique Éric Delannoy, président de Tenzing Conseil.
Comme on est sur un référentiel extrêmement détaillé, on n'a pas toutes les données pour une entreprise pour évaluer ses impacts. Ça va venir avec le temps. Donc il y a un enjeu de pouvoir qualifier et de construire la donnée qui permettra de nourrir les rapports. C'est pour ça que pour le moment, on est plutôt sur des entreprises qui vont commencer à identifier leurs grands impacts, de manière à construire des premiers rapports de durabilité sur lesquels il n'y aura pas grande surprise, à vrai dire. Simplement, avec le temps, ça va s'affiner et ça va se complexifier. La CSRD n'a de sens que dans une logique de trajectoire, plutôt que de dire « oulala, encore un gros machin qui va être terrible ».
Cela dit, certaines données à fournir ne lui paraissent pas adéquates pour toutes les entreprises. Impact France, le mouvement patronal qui promeut un entrepreneuriat social et écologique, souhaite aussi certaines simplifications, mais sans toucher à l'ambition de la directive.
Paul Inglaise, merci pour toutes ces réponses et à tout à l'heure. RFI, 6h26, ici à Paris. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité africaine. Ce sera avec Paul Loncin-Spinelli. Avant cela, petite pause musicale. On écoute Salif Keïta avec Kante Manfila, extrait de son nouvel album dont la date de sortie a été annoncée au 11 avril prochain. C'est en playlist RFI en ce moment.
Munekerasa, ngara kebidi bangara ya kumaromba deno. Ala nolo kela, kante bidi bakumala. Ako no bidi bapanima. Sike ako no bidi bayalama. Kante ako no bidi bapanima. Kante bidi bakumala. Atebe atebe sa ngara ya ni sala ya batebe atebe atebe o foli bari si logo batebe atebe atebe sa jeli ya ni malo ya batebe atebe atebe o kante biliba kumala akwa no biliba panima sike kwa no biliba ya lama. Quand tu es ta malade. Alou ta foi j'ai l'idée, ma sarangue j'ai l'idée. A foi j'ai l'idée, siriou maman j'ai l'idée. Alou ta foi kankan kalouye, balakala kinare, yé, quand tu es ta maman, mon kela. Siriru mama kwa no biliba panima kante biliba tamala Amadara madalala amandari kele na folila.
Salif Keïta avec Kante Manfila en ce moment en playlist RFI, le Malien qui sera en concert au Trianon à Paris le 21 mai prochain. On se retrouve dans une minute pour l'actualité africaine.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Quand l'écriture guérit, thérapie par la création littéraire encadrée par des soignants, comment fonctionne cette écriture refuge, écriture qui soulage?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
à Madagascar, l'homosexualité est autorisée pour les personnes de plus de 21 ans. Pourtant, elle est encore largement condamnée par la société. Dans ce contexte, des associations luttent pour faire respecter la loi et promouvoir un traitement égalitaire des personnes trans ou homosexuelles.
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur